déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, nous vous présentons le père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, théologien, prieur de la communauté de Saint-Constant. La série s'intitule « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ».
Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre parcours dans l'Évangile de Marc. Vous savez que nous l'approchons dans cette série avec la méthode de la Lectio Divina qui comporte trois étapes, la Lectio, la Meditatio et l'Oratio. Alors c'est Michel Proulx qui est avec vous et pour explorer dans le fond un livre que j'ai publié récemment qui s'appelle « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ». Aujourd'hui, nous nous penchons sur le texte de Marc, chapitre 1, les versets 29 à 39, que j'intitulerai « Malaise de Jésus devant les miracles ». Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement. Mais comme c'est l'habitude, la Lectio Divina commence toujours par une invocation de l'Esprit-Saint, ce que nous faisons immédiatement. Esprit-Saint, nous t'appelons pour que tu viennes ouvrir notre cœur, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ce texte de Marc, pour que nous puissions l'accueillir comme parole de Dieu qui s'adresse à nous aujourd'hui. Merci de l'aide que tu voudras bien nous apporter, Esprit-Saint. Amen. Je nous lis le texte de Marc 1, 29 à 39. Et aussitôt, étant sorti de la synagogue, Jésus et ses disciples vinrent à la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était couchée, fiévreuse. Et aussitôt, il lui parle d'elle. Et s'étant approché, il la fit lever, lui ayant saisi la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Au crépuscule, lorsque le soleil se coucha, il lui amenait tous ceux qui étaient malades et les démoniaques. Et la ville entière se pressait à la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de diverses maladies, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce qu'ils le connaissaient. Et très tôt le matin, s'étant levé, il sortit et s'éloigna vers un lieu désert, et là il priait. Pierre le pourchassa et ceux qui étaient avec lui. Et l'ayant trouvé, ils lui disent « Tous te cherchent ». Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que je proclame là aussi. C'est pour cela que je suis sorti. » Et il vint proclamant dans leur synagogue de la Galilée tout entière et chassant les démons. Alors, débutons la première étape, qui est la Lectio, étape dans laquelle nous essayons de comprendre de quoi il est question dans ce passage. Ben, comme vous voyez, hein, ce passage, il apparaît dans le fond dans une section qui a débuté au verset 21 et qui constitue ce qu'on appelle habituellement le récit de la journée inaugurale du ministère public de Jésus. C'est normal, on est seulement au chapitre 1 de l'Évangile de Marc. Donc, Jésus se trouve toujours en compagnie de ses quatre premiers disciples, André et Simon, Jacques et Jean. On a vu la semaine dernière qu'il les a appelés. Et le petit groupe se trouve à Capharnaüm, dans la maison de Simon et André. Marc a précisé que c'est un jour de sabbat. Et ce jour a commencé par un premier événement marquant, qui est raconté juste avant notre passage d'aujourd'hui. Durant qu'il enseignait avec autorité à la synagogue, figurez-vous que Jésus a réussi à chasser l'esprit impur d'un possédé, puis à lui imposer le silence. Alors, ça a beaucoup impressionné les gens et sa réputation s'est immédiatement répandue dans toute la Galilée. Et c'est tout de suite après cet événement public que survient notre récit. Marc nous informe que dans cette maison de Simon, il y a une autre personne qui est à part, qui est en retrait, c'est la belle-mère de Simon. Et on nous informe que cette femme souffre d'une fièvre. Alors, on parle d'elle à Jésus et nous voyons que Jésus prend l'initiative de se rendre à son chevet. Mais là, il n'y a aucune parole qui est échangée, mais le plus naturellement du monde, Jésus lui saisit la main puis a fait lever. Alors, ce qu'on remarque, c'est que l'attention de Jésus ne se porte pas vers une maladie, mais vers la personne, vers la femme qui se trouve devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se rend présent à elle. Et sans faire aucun geste comme le faisaient les guérisseurs de son époque, il ne fait pas d'incantation ou d'imposition de main, il la prend tout simplement par la main. Et ce que nous voyons, c'est que ce contact se révèle thérapeutique. Hein? De couchée qu'elle était, voici que la femme est remise debout. Elle est passée de la position des morts, hein, elle était couchée, à la position des vivants, elle est debout. D'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on lit le texte en grec, dans sa langue originale, nous voyons que Marc utilise un verbe qui est typique pour parler du retour à la vie. Hein? Le verbe qui est employé par Marc pour parler du relèvement de la femme, eh bien, c'est précisément celui qu'il utilise ailleurs dans son évangile pour parler du retour à la vie, pour parler aussi de résurrection. Alors, ce que nous voyons, c'est que en Jésus, il y a un dynamisme de vie qui peut remettre les personnes debout. Et la belle-mère de Simon, ben, la voici maintenant dans la même position que Jésus, debout comme lui. Alors, ce que Marc montre à ses lecteurs, c'est toute la force de vie qu'ils peuvent recevoir du Christ ressuscité. Le texte précise que cette femme, après avoir été remise debout, eh bien, elle se met à servir les autres membres de la maisonnée. Et c'est très beau parce que maintenant qu'elle a rencontré Jésus, qu'elle a été touchée par lui, elle peut s'adonner au service de la vie, comme Jésus le fait. Bon, elle fait ça à sa façon, selon ses compétences à elle, et pour elle, ben, comment est-ce qu'elle peut servir la vie? Ben, c'est en offrant aux convives de sa maison de quoi se restaurer, de quoi alimenter la vie. Alors, c'est très beau parce que quelque chose de la vie de Jésus lui a manifestement été communiqué. Plus loin, dans son évangile, Marc rapporte ceci, je le cite, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors, nous voyons que comme Jésus serviteur, cette femme se met au service des autres.
Thank you.
Vous êtes toujours en compagnie du Père Michel Proulx, chanoine régulier de Prémontré. Et dans cette émission, nous nous penchons sur le passage de Marc, chapitre 1, 29 à 39, et nous nous intéressons à la manière dont Jésus se situe devant les miracles. Il vient tout juste de relever une femme qui souffrait de fièvre, de la ramette debout, et nous poursuivons notre lectio de ce passage. Alors, nous voyons que cette femme qui a été relevée par Jésus, eh bien, par le service qu'elle rend, elle ressemble à Jésus qui se fait serviteur. Et par là, cette femme-là se révèle désormais disciple de Jésus. Le récit se poursuit maintenant avec un événement qui se joue à nouveau sur la scène publique. Voilà que tous les malades et les possédés de la région sont amenés à Jésus. Et remarquons le mot « tous ». Hein? On dit qu'on lui amène tous les malades et tous les possédés. Eh bien, ce rassemblement de tous ces malades, c'est la conséquence de l'exorcisme que Jésus a accompli le matin même. Hein? C'est un événement qui s'était déroulé devant des témoins et ça avait valu à Jésus une réputation instantanée. Alors, conséquence, ben, nous voyons qu'avec le coucher du soleil, le sabbat a pris fin, ce qui permet aux personnes de se déplacer maintenant, eh bien, la ville entière se presse à la porte de la maison. Mais une question se pose. Pourquoi tous ces gens-là se précipitent-ils vers lui? Hein? Marc écrit qu'ils amènent tous les malades et les démoniaques. Mais il dit aussi que Jésus en guérit beaucoup. Hein? Il ne guérit pas tous. Eh bien, ça, c'est très révélateur. Par cette distinction de vocabulaire, hein, on les amène tous, mais Jésus en guérit beaucoup, bien, Marc laisse entrevoir un écart entre ce que les gens cherchent auprès de Jésus et ce qu'ils souhaitent offrir. Le problème, c'est que les gens ne viennent pas écouter Jésus, mais plutôt profiter d'un guérisseur. Hein, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne s'approchent pas de lui en vue d'apprendre, je ne sais pas moi, comment se convertir, comment accueillir le règne de Dieu, hein, ce que Jésus annonce, mais ils viennent à lui pour être soulagés, je dirais, instantanément, un peu magiquement, si je puis dire, de toute souffrance. Oui, Jésus, ce soir-là, a guéri beaucoup de malades. Il a libéré de nombreux démoniaques. Oui, parce que la venue du règne de Dieu, ça apporte vraiment une libération. Mais peut-il répondre à tous les rêves de mieux-être instantanés? Hein? C'est comme si les gens voulaient être soulagés instantanément de tous leurs problèmes et qu'ils viennent à Jésus pour ça. Hein? Plus fondamentalement, est-ce que c'est possible, ça, d'être humain et d'échapper à toute souffrance? Hein? Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir une vie humaine sans souffrance? Est-ce que espérer ça, est-ce que ce serait pas flirter avec l'illusion? En tout cas, on a l'impression que Jésus est mal à l'aise devant ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que le lendemain matin, à la première heure, Marc nous dit que Jésus se lève très tôt pour aller prier. Et ça donne à penser qu'il y a quelque chose d'urgent. C'est assez rare dans l'évangile de Marc que Marc nous montre Jésus en train de prier, à la différence de Luc. Hein, dans l'évangile de Luc, il aime beaucoup, c'est fréquent qu'il nous montre Jésus en prière, mais pas chez Marc. Alors, s'il le fait ici, et si en plus il nous dit que Jésus se lève tôt, se rend à l'écart pour aller prier, ça doit être parce qu'il se passe quelque chose d'important, quelque chose d'urgent. Malheureusement, Marc ne nous fait pas entendre le contenu de sa prière, celui de la prière de Jésus. Mais quand on découvre ce qui en résulte, son refus de retourner à Capharnaüm, nous comprenons qu'il ne se sent pas à l'aise avec ce qui s'est passé la veille au soir, avec toutes ces guérisons qu'on a sollicitées de lui, sans qu'il puisse proclamer la bonne nouvelle. Jésus se sent possiblement emporté dans un tourbillon qui l'éloigne de sa mission véritable. Alors, en s'écartant des humains et en se rapprochant de Dieu par la prière, Jésus se donne le moyen de retrouver son appel particulier. À l'écart des pressions de la foule, je dirais dans un espace de liberté intérieure, il peut discerner avec clarté ce que Dieu attend de lui. Est-ce que ça veut dire que Jésus aurait été tenté, pendant un moment, d'orienter son ministère dans le sens des demandes de cette foule-là? On ne sait pas, mais Marc exprime que Jésus, en tout cas, a senti le besoin impérieux d'un contact intime avec le Père, hein, loin des requêtes de ses admirateurs. Et ce retrait de Jésus passe évidemment pas inaperçu. Hein? Simon puis les trois autres disciples se mettent en frais de le retrouver. Et le verbe grec qu'emploie Marc comporte vraiment une notion de poursuite, là, presque de harcèlement. Le verbe qui est employé en grec par Marc, on l'emploierait volontiers pour exprimer la recherche d'un prisonnier en fuite. Alors, l'usage de ce verbe-là, ça amène à se questionner sur les motivations de Simon et ses compagnons. Pourquoi est-ce qu'ils poursuivent Jésus? Puis, en écoutant ce que les quatre disciples disent à Jésus, les choses s'éclairent. Ils disent « Tous te cherchent ». En fait, Simon et ses compagnons se font les porte-parole, je dirais, des fans de Jésus. Ils sont envoyés en délégation pour le ramener, pour qu'il continue à satisfaire les besoins de toutes sortes. Les foules le réclament. Alors, ce qu'on constate, c'est que les disciples, les nouveaux disciples de Jésus, se sont laissés gagner par cette fièvre-là. Alors, le pauvre Jésus, il est bien seul devant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il il invite ses disciples à ce qu'ils aillent ailleurs. C'est comme ça qu'il tente de les arracher à leur aveuglement. Pas question pour Jésus de se laisser accaparer par les habitants d'une seule région, et surtout pas question de se laisser prendre par leurs désirs qui ne correspond pas à ce que lui, Jésus, veut faire, qui n'est pas d'être un médecin, avant tout, mais d'annoncer la parole de Dieu. Alors, nous voyons que Jésus ne s'est pas laissé embrigader par les attentes de ses villageois, mais il reste un homme libre. Alors, dans un moment, nous passerons à la deuxième étape, qui est la méditation par rapport à ce texte. Vous êtes toujours en compagnie du Père Michel Proulx, chanoine prémontré. Nous creusons un texte de l'Évangile de Marc au chapitre 1 et nous passons à la méditation, c'est-à-dire que nous essayons de voir comment peut nous rejoindre un texte comme celui-là. Je pense que l'attitude de Jésus invite à faire la même chose dans notre propre vie, la même chose que lui. Comme lui, nous avons à être vigilants pour demeurer fidèles à notre chemin particulier, puis aux appels qui surgissent de notre cœur. Et comme Jésus, nous courons toujours le risque de nous laisser détourner de notre vocation unique. Les désirs des personnes qui nous entourent ben, leurs désirs, leurs attentes peuvent nous éloigner de notre identité profonde, de notre appel particulier. Et l'exemple de Jésus qui se retire pour prier, ben, je pense que ça nous fournit une piste à suivre. C'est important, si nous voulons demeurer fidèles à nous-mêmes, de nous donner des espaces, des moments pour faire le point en présence du Seigneur. En plus, nous avons un passage qui nous fait voir ce qui était prioritaire pour notre Maître. Pour lui, ce qui était fondamental, c'était de proclamer la bonne nouvelle de la proximité du règne. Bon, assurément, Jésus s'est montré sensible aux misères des personnes en guérissant de nombreux malades puis en chassant beaucoup d'esprits mauvais. Mais son désir le plus profond, c'était que les personnes accueillent son évangile, hein, qu'elles écoutent la parole de Dieu. Et Jésus a pris ses distances lorsque on ne cherchait en lui qu'un guérisseur, qu'une protection, qu'un antivirus contre les malheurs de la vie. Eh bien, est-ce que ça n'appelle pas chacune de nous à faire le point quant à notre propre démarche de foi? Qu'est-ce qui me motive à mettre ma foi en Jésus? Qu'est-ce que je cherche auprès de lui? Est-ce que je m'approche de lui pour l'accueillir, pour me mettre à l'écoute de sa parole? Ou bien, est-ce que je suis plutôt comme les personnes de cette foule-là qui voulaient trouver auprès de Jésus une sorte d'échappatoire à tous leurs problèmes? Est-ce que je viens à lui avec l'espoir qu'il soit comme le vaccin qui me protège des malheurs de la vie? Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont attirées par les guérisons miraculeuses, par les signes extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont friands d'apparitions. Bon, est-ce que je fais partie de celles-là? En tout cas, on voit que pour Jésus, lui a choisi de prendre distance de ceux et celles qui cherchaient ça auprès de lui. Nous avons un évangile qui a raconté aussi la rencontre entre Jésus et la belle-mère fiévreuse. La transformation de cette femme-là, on l'a vu, elle est remarquable. De malade qu'elle était, elle était couchée, à part du groupe, grâce à Jésus, grâce à sa rencontre avec lui, elle finit par être engagée, comme Jésus, dans le service des autres. Marc enseigne par là que c'est ça que Jésus souhaite pour chacun et chacune de nous. Il souhaite que nous soyons des personnes debout, bien vivantes, au service de nos frères et sœurs, selon nos capacités, selon les talents, les charismes qui sont les autres, les nôtres, mais qu'on puisse les mettre au service des autres. Je pense que maintenant nous sommes prêts à la dernière partie, la dernière étape de la Lectio Divina, qui est oratio, une prière en partant du texte. Alors, je vous invite à la faire vôtre, à vous associer à moi, à l'adapter pour votre propre situation. Seigneur Jésus, je t'admire dans ta décision, dans ta capacité à demeurer fidèle aux appels du Père. Je m'émerveille de ta liberté intérieure devant la popularité, devant la pression des foules. Tu n'as dévié ni de ton chemin, ni de ta mission. Esprit Saint, donne-moi le discernement et la vigilance pour vivre à l'exemple de Jésus. Donne-moi de vivre avec clarté ce à quoi le Père m'appelle. Donne-moi la capacité de pouvoir y répondre fidèlement. Je désire être libre en regard des attentes, des pressions de mon entourage. Seigneur Jésus, je souhaite venir à toi, non pour échapper aux difficultés puis aux souffrances de la vie, mais pour écouter ta parole. Toutefois, tu sais bien que je ne suis pas un ange, tu sais bien que mes motivations ne sont pas toujours pures. Mais je t'exprime mon désir sincère de vivre en relation d'intimité avec toi et avec le Père. En terminant, Seigneur Jésus, en prenant la belle-mère de Simon par la main, tu as chassé la fièvre qui la tenait à l'écart des autres et qui la gardait couchée. Ta présence auprès d'elle a transformé sa vie. Prends-moi ainsi par la main. Transforme-moi progressivement pour que je sois une personne debout, de plus en plus ouverte aux autres et de plus en plus en service de mes frères et sœurs, comme toi. Amen. Eh bien voilà, j'espère que cette Lectio Divina vous a permis d'approfondir ce texte. Vous pourriez avoir quelque chose de plus développé dans mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc » publié chez Mediapol. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Si vous souhaitez vous préparer, ce sera nous pencherons sur l'extrait du chapitre 1 de l'Évangile de Marc, les versets 40 à 45, où Jésus accepte de purifier un lépreux. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Déroulement du livre, vous venez d'entendre le Père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, auteur de l'ouvrage « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc », paru aux éditions Mediapol.